Il est 10h sur France Culture et à 10h, il est l'heure de retrouver les chemins de la philosophie avec vous, Adèle Van Rhede. Bonjour.
Bonjour, cher Emmanuel, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Les chasseurs de primes vieillissent, eux aussi. On peut être courageux mais ivrogne, jeune mais myope, intelligent mais manqué de chance. C'est le cas des trois personnages principaux d'Impitoyable de Clint Eastwood, sorti en 1992, qui reçut 4 Oscars en son temps, Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur montage. Le film pose une question, peut-on tuer quelqu'un sans redevenir méchant, et propose une des plus belles réflexions d'Eastwood sur la narration. C'était une belle jeune femme, promise à un bel avenir. Par conséquent, sa mère déplora son mariage avec William Money, un voleur et tueur notoire connu pour sa nature vicieuse et intempérante. Elle ne mourut pas entre ses mains, comme s'y attendait sa mère, mais de la variole. C'était en 1878. Bonjour Marc Rosmini.
Bonjour Adèle Van Rhede.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je viens de lire les lignes qui défilent sur l'écran au tout début du film d'Eastwood, Impitoyable. En ces 4 ou 5 lignes, le ton est donné. Non seulement c'est un récit, une narration très particulière qui va mettre en abîme les clés mêmes de la narration, mais rien ne se passe comme on l'attend. De même que la mère pense que sa fille va mourir étranglée par l'homme qu'elle a épousé, en fait elle meurt de la variole. Et cette ironie sera très présente tout au long du film. Et enfin, ces lignes montrent que jamais rien ne se passe comme on le prévoyait, et tout le film va prouver ce constat initial.
Oui, et puis en plus, ces lignes, elles défilent sur une image qui est déjà une image d'Épinal, avec un coucher de soleil, un contre-jour, donc quelque chose qui relève déjà d'un imaginaire, d'une imagerie, qui va poser une question aussi fondamentale qui va revenir tout au long du film, qui est en fait, est-ce qu'une image peut être vraie? Est-ce qu'on peut d'ailleurs accéder à la vérité de quoi que ce soit?
C'est la question que vous posez dans votre livre « Méditation westernosophique » qu'on trouve aux éditions Mediapop, où vous preniez plusieurs films, que ce soit le Django de Tarantino, Danse avec les loups avec Kevin Costner et d'autres. Et donc, Impitoyable, et vous proposez cette réflexion sur la vérité et l'image. Je précise que par ailleurs, vous enseignez la philosophie en terminale, dans 2 lycées à Marseille, le lycée Artaud et le lycée Thiers, et que vous avez impulsé un cycle de cinéphilo. Donc c'est ce sujet-là qui vous intéresse particulièrement. Alors pourquoi les westerns en particulier, et ce western encore plus en particulier?
Alors pourquoi les westerns en particulier? Bon, il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, il y a une raison totalement subjective. Je pense qu'on pense toujours à partir d'une subjectivité, d'une histoire singulière. Et mon histoire, c'est l'histoire d'un amateur de western depuis l'enfance. Donc pour moi, c'était aussi interroger en fait la fidélité à moi-même à travers le temps. Mais de manière un peu plus objective, le western est un genre politique, essentiellement politique, qui pose donc de nombreuses questions que posent d'autres genres aussi, sur l'ontologie, sur la réalité des images, sur le bien et le mal, mais qui en plus pose vraiment cette question du passage de l'état de nature à l'état civil, à l'état de droit, puisque c'est vraiment le thème central du western finalement. Comment est-ce que, à partir d'individus isolés les uns des autres, qui ne se connaissent pas, dans des terres inhospitalières et non civilisées, on va faire société? Et voilà, cet aspect-là du western, il m'a intéressé, il a intéressé beaucoup d'autres philosophes, bien évidemment. Hein. Et c'est, je crois que voilà. Et ce film-là en particulier, Impitoyable, me semble être d'une richesse esthétique, philosophique, hors norme, en ce qu'il interroge le genre lui-même aussi. C'est un western réflexif. Voilà. Donc c'est pour ça que je lui ai consacré non seulement un chapitre, mais presque 2, puisque c'est un des rares films dont je reparle plusieurs fois, en fait.
Et il a ceci de particulier qu'il sort en 92 sur les écrans, c'est ce que je disais, primé plusieurs fois aux Oscars en 93, et il s'inscrit dans la longue lignée des westerns qui existe depuis le début de l'histoire du cinéma, c'est ce qu'on a vu cette semaine ici. Et c'est un des derniers, parce que depuis presque 20 ans maintenant se sont écoulés, mais on est quand même dans une version du western qui est beaucoup plus contemporaine que ceux que nous avons évoqués cette semaine. Ça change quelque chose, parce que on peut se demander pourquoi en 92 et encore plus aujourd'hui on continue à faire des westerns. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur laquelle qui mériterait d'être interrogé?
Les westerns de chaque époque parlent de l'époque plus que de la conquête de l'Ouest finalement.
De l'époque où ils sont réalisés.
Oui, exactement, puisque ce qu'on voit bien dans le film, on y reviendra avec le personnage de Beauchamp, avec la fabrication d'un récit et d'une imagerie, c'est qu'en réalité le western est incapable, bien évidemment, de nous faire revenir à ce qui s'est vraiment passé dans l'Ouest américain pendant le 19e siècle. Donc chaque western parle d'une époque, et je crois que ce western de 1992, alors d'abord c'est le dernier qui est réalisé par Clint Eastwood, alors qu'il en a réalisé de nombreux, et puis surtout il a joué évidemment dans de nombreux westerns. Il est d'ailleurs dédié à Don Siegel et à Sergio Leone. Et effectivement, c'est un bilan aussi d'un moment de l'histoire du cinéma. Et c'est un moment aussi où Clint Eastwood va de plus en plus s'interroger justement sur cette capacité qu'a le cinéma à la fois à forger des mythes et puis à démystifier aussi. Enfin, ce qui est intéressant dans ce western, c'est vraiment cette dialectique entre d'un côté la mythification, comment est-ce qu'on fabrique des mythes, des héros, des légendes, et comment est-ce qu'on les déconstruit en même temps. Et dans le cinéma de Clint Eastwood, c'est souvent les deux en fait.
Il fait son miel de cette ambiguïté qui commence dès le début du film avec les quelques phrases que j'ai lues qui donnent le ton, mais aussi les premières scènes où l'on voit le personnage joué par Clint Eastwood qui est dans une ferme avec des cochons qui ont la fièvre, il tombe, il se vautre dans la boue, il parle avec ses enfants, tout laisse penser qu'il est complètement à contre-emploi. C'est pas le Clint Eastwood, le cow-boy vaillant tel qu'on le connaît et qu'on l'aime, c'est au contraire celui qui semble avoir raté quelque chose et qui serait plutôt un anti-héros.
Absolument, encore que le cow-boy vaillant a très tôt dans sa carrière eu à cœur de déconstruire son image, hein, parce que les séquences où Clint Eastwood, acteur, se fait frapper, il y en a plein en fait dans sa filmographie, il y en a énormément. Et donc ici, effectivement, c'est la déconstruction de l'idée même de héros, puisque c'est un film, effectivement, qui n'a pas de héros du tout. Oui. Ce qui pose le problème aussi de l'identification, d'ailleurs. D'emblée, ce personnage que vous avez décrit, hein, qui est dans la boue, qui a le visage maculé de lisier de porc. Alors, le thème du visage aussi va revenir plusieurs fois dans le film. Avec le
visage balafré.
Exactement, le visage balafré, hein, qui est un peu d'ailleurs l'initiateur du récit. Et effectivement, c'est un personnage auquel on sent qu'on ne pourra pas s'identifier, non seulement parce qu'il est étranger à ce qu'il est censé symboliser, c'est-à-dire un héros, et puis aussi parce qu'il est passablement étranger à lui-même. En fait, assez vite dans le film, le personnage de William Meunier, donc qu'il interprète, va nous apparaître comme un sujet qui n'arrive pas à se saisir lui-même, qui reste opaque à lui-même, et donc auquel nous ne pourrons pas nous identifier, justement.
Ou alors, au contraire, à qui on s'identifie d'autant mieux qu'il n'est pas objectivable, qu'il n'est pas, disons, tout noir ou tout blanc, qu'il est entre les deux, et ça, pour le coup, on peut s'identifier à ce
trouble. Absolument, absolument. Nous allons nous identifier parce que nous allons comprendre aussi avec le film que nous sommes nous-mêmes incapables peut-être de nous saisir clairement. Et tout le film, d'ailleurs, va nous mettre dans des situations de malaise qui vont nous rendre d'une certaine manière étrangers à nous-mêmes et qui vont nous déprendre de nous-mêmes. Et donc, effectivement, s'il y a une identification, c'est plutôt une identification à un sujet que lui-même n'arrive pas à s'identifier. Donc c'est assez paradoxal dès le début.
Alors avant d'entendre un extrait, un mot peut-être sur le titre. On a évoqué tout au long de cette semaine le problème des titres des westerns
qui
en français et en anglais ne signifient pas du tout la même chose. Ici, le titre français est impitoyable quand le titre anglais est unforgivable. Impardonnable.
Unforgiven. Impardonné, en fait.
Unforgiven.
Ouais, impardonné.
Impardonné et ouais. Impitoyable, ce qui n'est pas la même chose
du tout. Pas du tout. Alors bon, pour des raisons sans doute commerciales, peut-être qu'impitoyable, ça sonnait mieux qu'impardonnable ou impardonné. Mais effectivement, il y a un problème de traduction et c'est très différent.
Ben oui.
Parce que parler de pardon et parler de l'impossibilité du pardon, c'est d'emblée nous mettre dans une sorte de piège moral où on ne sait pas d'ailleurs qui ne sera pas pardonné. Est-ce que c'est le réalisateur lui-même de nous faire subir autant de dilemmes moraux et autant de malaise? Est-ce que ce sont les personnages? Est-ce que tous les personnages sont impardonnables? Et effectivement, c'est très différent et je trouve que le titre original, pour le coup, était donné plus à penser que le titre français.
Et dans les deux cas, en tout cas, la dimension morale est très présente, comme c'est le cas dans le film. Alors, on va entendre la deuxième scène du film. J'ai décrit la première, donc le personnage de Clint Eastwood qui est chez lui avec ses deux enfants dans la boue et les cochons. On assiste ensuite à une scène dans un bordel local ou une maison où il y a des prostituées qui font leur métier et donc accueillent des jeunes hommes. Ça tourne mal. L'un des cow-boys s'en prend à une des femmes qui va se faire balafrer le visage, taillader le visage au couteau. Le shérif arrive devant les deux coupables et alors va s'ensuivre une sorte de discussion très étrange où on ne sait pas s'il veut les punir ou au contraire les protéger. Et toute l'ambivalence morale se joue à ce moment-là. Écoutez.
Right. Step over to the office and get the bullwhip.
A whipping? That's all they get after what they done?
Whipping ain't no little thing, Alice.
But what they done, they could
have more than... Shut up!
Des coups de fouet, c'est tout ce qu'ils auront après ce qu'ils ont fait.
C'est pas rien, des coups de fouet, Alice.
Mais pour ce qu'ils ont fait,
Alice,
ils plus que...
La ferme. Little Bill, le fouet réglera pas ça.
Ah non.
Voilà un contrat en bonne et due forme entre moi et Delilah Fitzgerald, la putain tailladée. Je l'ai amené de Boston, et j'ai payé ses dépenses et tout le reste. Et j'ai un contrat qui représente un investissement de capital.
Une propriété.
Une propriété endommagée, ouais. C'est comme si je coupais les jarrets d'un veau bourrin.
Parce que tu penses que personne ne voudra plus la baiser, maintenant?
Ça, non. Et en tout cas, pas en payant. Peut-être qu'elle peut faire le ménage, ou je sais pas, moi, mais personne ne payera plus pour une pute défigurée.
Vous venez bien du Thébaret. Et vous avez vos propres bourrins.
Oui, oui, j'ai 4 chevaux.
6.
Je suppose que vous tenez pas au procès aux emmerdes, hein?
Non, monsieur.
Bon. C'est toi qui l'as tailladé. Je veux qu'à l'automne, tu amènes 5 chevaux et que tu les donnes à Skinny.
5 chevaux?
Quant à toi, t'en apporteras 2. C'est compris?
Oui, monsieur.
Voilà le fouet, Bill.
On n'a peut-être plus besoin du fouet, maintenant. Et je vais vous dire, si au printemps, Skinny n'a pas ses bourrins, je viens vous chercher.
Comment? Tu ne les fouettes même pas?
Je les ai mis à l'amende à la place, Alice.
Après ce qu'ils ont fait, ils donnent quelques bourrins à Skinny et c'est tout. C'est pas juste, Bill. C'est pas juste.
La question de la justice est omniprésente dans tous les westerns. Mac Ross Mini est souvent liée à celle de la vengeance, parce que parfois les deux sont incompatibles. Ici, c'est la question de la punition. Comment punir quelqu'un qui vient de défigurer une jeune femme? La punition proposée par le shérif, c'est non pas le fouet, comme il voulait le faire initialement, mais la compensation par 5 chevaux. Et l'image est d'autant plus à la fois ironique et douloureuse qu'au début du film, quand la femme assistait à cette mutilation de sa compagne, elle disait « Mais nous sommes des femmes et pas des chevaux ». Eh bien, c'est précisément des chevaux qui vont venir compenser cette défiguration.
Absolument. Donc, une compensation qui est particulièrement dégradante et humiliante pour un acte qui a été lui-même très dégradant, puisque justement, s'attaquer au visage d'un individu et le défigurer, c'est justement s'attaquer aussi à une forme de son humanité, bien évidemment. Et ici, comme vous le dites, la question, c'est qu'est-ce qui peut être juste? Or, tout l'art de Clint Eastwood, et là, il est très fort dès le départ, c'est que la séquence de l'agression est filmée en partie en caméra subjective, c'est-à-dire du point de vue de la victime, et en contre-plongée. C'est-à-dire que nous voyons l'agression du point de vue de la victime, et donc nous avons un sentiment d'identification à cette femme qui est prise au cœur d'une violence totalement absurde, en plus, pour une raison totalement dérisoire et ridicule. Et donc, d'emblée, notre esprit est incité à nous associer à leurs revendications. Sauf que ce qu'elles demandent, c'est qu'on les pende et qu'on les fouette. Et je parlais tout à l'heure de piège moral. Ce qui est très intéressant ici, c'est que d'emblée, nous sommes tiraillés entre d'un côté nos valeurs qui peut-être nous font réprouver la torture et la peine de mort. Et cette identification visuelle et symbolique à ces femmes-là, justement, où nous allons nous demander tout le long du film, en fait, si nous avons vraiment envie qu'elles se vengent ou pas.
Sachant qu'une des violences, j'insiste sur le fait qu'elle a été défigurée, cette jeune femme, mais on lui a aussi coupé les tétons.
Alors, ça, c'est pas du tout avéré dans le film, puisque, et ça, c'est assez intéressant aussi, c'est ce qu'il dit qu'il va faire. Et ensuite, il y a le kid. Quand le kid va raconter à William Meunis ce qui est arrivé, justement, il va dire qu'on lui a coupé les oreilles, etc. Avec justement cette exagération qui va avoir lieu.
Bon, on ne voit pas le plan, mais alors vous pensez que ça n'est pas arrivé?
En fait, on n'en sait rien. Et justement, le fait qu'on ne le sache pas, d'emblée, nous met aussi dans cette position où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et où en tout cas, on voit que le kid, quand il va convaincre William Meunis d'aller avec lui pour accepter donc de la somme de ses femmes pour tuer les 2 cow-boys qui les ont maltraités, justement, il va en rajouter en fait, hein, puisque c'est aussi un film sur l'extrapolation de la parole. Mais pour revenir à cette question de la justice, effectivement, là il y a un thème philosophique, bon, très très classique, hein, qu'on va retrouver chez Hegel entre autres, qui est en fait où s'arrête la justice et où commence la vengeance. Mmh. Et effectivement, la figure de Little Bill, c'est une figure d'une autorité...
Donc le shérif.
Oui, le shérif, tout à fait, une autorité arbitraire, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Mais selon lui, c'est une compensation acceptable. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de raisonnement. Et il dit finalement, voilà, s'il y a quelqu'un qui est lésé, on pourrait, sauf que qui est lésé d'abord? Est-ce que ce sont les filles ou le propriétaire du saloon? Et donc voilà, donc il y a d'emblée cette question, qu'est-ce qu'un acte juste? Est-ce que la vengeance peut être juste? Est-ce que parce qu'on est victime d'une injustice, on peut désobéir à l'autorité, une autorité qui est censé être légitime, puisqu'il est quand même shérif, c'est pas un chef de horde, c'est pas un chef de clan. Donc voilà, cette question d'emblée du fondement de l'autorité et du respect qu'on doit à une autorité ou pas, quand on se sent victime d'une injustice.
Mais lui, personne ne conteste son autorité.
Absolument. Absolument. C'est une autorité sans contre-pouvoir.
Donc la question de la légitimité ne se pose pas.
Non, tout à fait. Sauf que la seule qui, c'est Alice, hein, donc
elle conteste la punition et non pas l'autorité.
Voilà, elle conteste la punition. Donc elle conteste peut-être aussi à travers cette contestation l'idée que cette punition était décidée sans délibération, sans réflexion collective, sans référence précise au droit. D'ailleurs, il leur dit, si vous voulez éviter un procès, on s'arrange, etc. Donc voilà, on est un peu à la marge. On n'est plus tout à fait dans l'état de nature et dans la guerre de chacun contre chacun. On n'est pas encore dans le règne du droit. On est dans cette zone intermédiaire qu'explore souvent le western, en fait, hein, puisque le western s'inscrit typiquement dans ce moment du passage. On passe du règne des armes à feu, du Colt, au règne de la loi, et ça ne se fait pas simplement.
Et on voit toute l'ambivalence ici qui est liée au fait que pour punir ce ne sont pas les assassins, mais quand même les criminels, le shérif s'abstient d'une forme de violence. Et on en vient, parce que vous l'avez dit, on s'identifie à la victime, à le déplorer. C'est comme si ce piège moral dont vous parlez, dont Eastwood est vraiment le spécialiste,
tout à fait.
C'est qu'on en vient à déplorer l'absence de violence parce qu'on trouve que la punition n'est pas assez forte par rapport au crime commis.
Et nous découvrons en nous-mêmes des envies de torture ou des envies de pendaison que nous ne connaissions pas, bien évidemment.
Et alors, à ce sujet-là, le film est assez incroyable parce que sans faire de spoiler, de toute façon, on va parler du film jusqu'au bout, le massacre ultime à quelque chose d'absolument jubilatoire. Et absolument. C'est très perturbant pour le spectateur que nous sommes, ou la spectatrice que je suis, puisque je ne parlais qu'en mon nom, mais je pense que vous partagez, ceux à qui j'en ai parlé partagent cette même ambivalence, de se dire de jubiler d'une telle vengeance, alors que c'est un bain de sang. C'est souvent un reproche qu'on fait à Tarantino, notamment, à cette fameuse esthétisation de la violence. Et ça fonctionne, vous l'expliquez comment ?
Alors, ça fonctionne d'abord parce que nous avons adopté peut-être à ce moment-là, mais bon, là on parle de la fin du film, le point de vue de Beauchamp aussi, c'est-à-dire le biographe d'English Bob, qui va ensuite devenir le biographe de Little Bill, et puis après on ne sait pas trop à la fin du film. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce désir d'assister à quelque chose d'extraordinaire, en fait. Parce que le gunfight final dans le saloon, il est terrible, mais il est surtout très improbable. Ça, il faudra en parler tout à l'heure, hein, quand on arrivera à ce moment-là. Il est surtout très improbable parce qu'effectivement, on ne voit pas comment un homme seul peut tuer autant de personnes qui sont toutes armées, qui ont toutes des armes braquées sur lui, d'autant plus que son fusil s'enraye. Donc Eastwood rajoute de l'invraisemblance à l'invraisemblance, et là il faudra se demander peut-être tout à l'heure pourquoi Eastwood a volontairement choisi, dans un film par ailleurs assez réaliste d'une certaine manière, de faire une fin comme ça, de choisir une fin aussi improbable.
Mais c'est bien d'en dire deux mots maintenant, parce qu'on voit que celui qu'on va présenter comme un anti-héros absolu aura quand même son heure d'héroïsme. Alors on va reprendre le fil du film pour venir venger ces demoiselles dans leur maison, qui ont donc été victimes de ces cow-boys, va s'assembler, va se former un groupe. Donc le kid, un gamin qui va aller chercher Clint Eastwood. Donc William Monick est un ancien tueur redoutable et redouté par le pays entier, qui donc maintenant s'occupe de ses enfants. Il est veuf. Là, on comprend le sens de la phrase que j'ai lue au début qui ouvre le film. Hein. C'est lui qui avait épousé cette femme qui est morte de la petite vérole, je crois, et qui donc a décidé de ne plus jamais toucher une arme. Il ne boit plus, il s'est converti à un homme vertueux. Mais il va être convaincu pour aller venger ces demoiselles qui ont besoin de lui. Il va aller voir en route un de ses anciens collègues, Morgan Freeman, qui s'appelle Ned Logan dans le film. Et tous les trois vont donc convoiter en direction de ces demoiselles pour aller les venger. Ce qui va donner lieu à une scène autour du feu. Alors là, une scène typique des westerns.
Absolument.
Où chacun va parler de soi. Lui va raconter comment il a vraiment était l'objet d'une transformation, une transformation morale. C'est une question qu'on retrouve là aussi dans tous les westerns. Et voici comment il en parle. Écoutez, c'est assez émouvant de l'entendre en parler, parce qu'on se demande après tout le reste du film s'il va tenir cette transformation ou pas.
She don't like it much, does she? You're riding off with me.
Sally?
She gave me the evil eye.
Well, you know, Sally's engine and... Engines ain't over-friendly, Will.
Ça ne doit pas lui plaire, hein, que tu sois venu avec moi.
Sally?
Elle m'a lancé un regard d'enfer.
Ben, tu sais, Sally est indienne. Les Indiens nous ont pas à la bonne.
Ouais, ça, je le comprends. Je ne peux rien avoir contre elle. Elle me connaît depuis longtemps. Elle sait bien Quelle espèce de salopard j'ai été. Elle ne doit pas savoir que j'ai changé. Elle n'a pas réalisé que je ne suis plus le même homme.
Oh, tu connais les femmes.
Je ne suis plus le même, Ned. Claudia m'a ramené dans le droit chemin. Elle m'a fait cesser de boire et tout le reste. C'est pas parce qu'on fait cette chasse à l'homme que je vais redevenir l'homme que j'étais autrefois. J'ai besoin de ce pognon. Pour un nouveau départ avec mes gosses.
Oui.
Tu te souviens de ce convoyeur de bétail que j'avais tiré en pleine gueule? Ses dents lui ressortaient derrière la tête.
Oui.
Tu sais que je pense souvent à lui. Il n'avait rien fait pour mériter d'être tué. En tout cas, je ne m'en suis pas souvenu une fois dessoulé.
Mais t'étais un beau salopard à l'époque.
Et personne ne m'aimait. Et tout le monde pensait que je tuais tous ces types par pure méchanceté.
Mais t'es plus comme ça.
Eagle, il me haïssait. Bonaparte ne me portait pas dans son cœur.
Quincy non plus, je veux dire.
Non. Quincy passait son temps à garder un œil sur moi. Un trouillard.
Mais comme j'ai dit, t'es plus comme ça maintenant.
C'est vrai. Je suis un simple citoyen. Je ne suis pas différent de qui que ce soit d'autre. Plus maintenant.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de western cette semaine et aujourd'hui d'Impitoyable de Clint Eastwood en compagnie du professeur de philosophie Marc Rosmini, l'auteur de Méditations westernosophiques aux éditions Mediapop. Ce n'est pas parce qu'on fait cette chasse à l'homme que je vais redevenir l'homme que j'étais autrefois. Tout est dans cette phrase, Marc Rosmini. Peut-il aller tuer quelqu'un sans redevenir le salopard qu'il était avant?
Avec le risque de réouvrir la boîte de Pandore de la violence, et qui sera le cas d'ailleurs. Hein. Alors cette scène, il faut aussi en dire deux mots visuellement, puisque on est à la radio. C'est vrai qu'il y a un très fort clair-obscur, puisqu'on est la nuit au coin du feu. Alors le clair-obscur caravagesque, c'est une figure de style que Clint Eastwood aime beaucoup, qu'il utilise dans beaucoup de ses films, notamment dans des moments particulièrement dramatiques où se joue quelque chose. Et ici, le clair-obscur, on le voit, c'est l'idée d'un individu qui aussi est partiellement opaque à lui-même, où une zone d'ombre de sa propre identité existe. Et d'une certaine façon, le personnage de William Meunier a du mal à refaire l'unité de sa vie. Hein, si on peut parler d'identité narrative ici, hein, le fameux concept de Paul Ricoeur, l'identité narrative, c'est la capacité à redonner un sens global par la narration, par le récit, à l'unité de notre vie et donc d'accéder à une certaine forme d'identité. Ici, effectivement, le personnage de William Meunier est souvent dans le déni ou dans l'oubli ou dans l'hallucination, et puis on voit aussi qu'il parle beaucoup de l'alcool, parce qu'il avoue qu'en fait pendant toute cette période de sa vie où il a tué énormément de gens, il n'était pas en fait maître de lui-même, donc il n'était pas un sujet d'une certaine manière, hein, puisqu'il était sous l'emprise de l'alcool. Et donc la question effectivement, ça va être de savoir si le fait de retourner ne serait-ce que provisoirement à la violence va lui permettre ou pas de rester le même, ou bien de retomber dans ses anciens travers dont sa femme justement l'aurait sauvé.
Et c'est un enjeu moral qui dépasse largement sa situation, de savoir est-ce qu'un acte va changer la nature, non pas la nature avec laquelle je suis né, qui était visiblement viciée pour lui, mais que j'ai développée en moi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut juger l'être que je suis à partir d'un seul acte?
Et oui, tout à fait. Et en quoi est-ce que l'acte va me redéfinir comme un individu que je vais choisir d'être, hein, finalement, puisque si c'est l'existence qui détermine l'essence, en l'occurrence, effectivement, le fait de retuer quelqu'un ou de retuer deux personnes, est-ce que ça va refaire de lui un meurtrier? Et ça, c'est une question qu'on va reprendre effectivement tout au long du film, avec l'idée de cette ambivalence morale aussi, encore une fois, d'un individu dont on ne sait pas jusqu'à quel point il était responsable de ses actes, puisqu'on parlait tout à l'heure de la responsabilité. Voilà, un individu qui finalement s'échappe aussi à lui-même à cet égard. Et un individu, alors je voulais le signaler aussi, c'est intéressant, qui vit hors société, d'une certaine manière. Puisque le thème du film, c'est aussi comment faire société. Mmh. William Meunier vit dans une ferme très éloignée, et il le dit lui-même, il dit d'ailleurs on voit jamais personne, en fait. Donc c'est, si l'homme est un animal politique, William Meunier n'est pas vraiment un animal politique au sens strict, puisqu'il vit d'une certaine manière hors société, avec ses animaux, ses enfants, mais c'est quelqu'un qui sans doute par culpabilité, parce qu'il traîne. Ça aussi, c'est un thème très, très fréquent dans le cinéma de Clint Eastwood, d'aller regretter les remords, tout ça, ces choses qu'on traîne et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Peut-être l'empêche de faire société. Voilà, c'est un individu dont on sent qu'il a du mal à faire société.
Il faut dire aussi qu'on est... Alors, le film s'appelle Impitoyable. On a une forme de pitié envers lui parce qu'on l'a vu avec ses enfants, qu'il quitte sans trop de problèmes au début du film et quand il prend la décision d'aller venger les demoiselles en disant « Bon, on se retrouve dans 2 semaines. » 2 semaines, les enfants ont 8 et 10 ans, sans doute.
Ils sont très jeunes. Ah,
donc, oui. On se dit, on imagine qu'il nous a été montré avec sa femme morte dès le début du film et ses 2 enfants pour nous sensibiliser encore plus à sa cause, de manière à ce que s'il lui arrive quelque chose, on trouve ça encore plus atroce.
Absolument. Et cette relation aux enfants, elle est assez particulière aussi, parce que effectivement, ils apprennent aussi ce qu'il a fait à ce moment-là. Ces enfants, ils sont visiblement pas trop au courant. Et donc, ça va être aussi, on parlait tout à l'heure de mythification et de démystification. Il y a aussi cette idée du regard de l'enfant dans le western. Bon, vous avez parlé de Shane, de l'homme des vallées perdues. Mmh. Voilà. Et voilà, c'est typiquement ça aussi. C'est comment est-ce que le récit est aussi vu à travers les yeux de personnages naïfs. Et dans le film aussi, on va voir Beauchamp et le Kid qui sont aussi en quelque sorte des enfants, c'est-à-dire des gens qui ont envie de croire, hein, des personnages qui ont envie de croire.
Alors, si on reste un instant autour du feu avec les 3 personnages, commentons-les quand même, parce que lui est cet homme qui s'est repenti et qui a réussi pour le moment à combattre le mal en lui, M.A.L. en lui, pour devenir meilleur. Il est accompagné de Ned, qui lui-même n'a pas la conscience absolument tranquille, et de cet enfant dont on va vite découvrir qu'il est myope. Et nous, on a ce groupe de bras cassés, en réalité, qui vont essayer d'aller sauver les gens, et on n'y croit pas, et c'est quelque chose de très attendrissant pour le spectateur.
Tout à fait. Et la myopie du Kid va vite s'avérer être une myopie à la fois visuelle et intellectuelle, bien évidemment, puisque le Kid ne veut voir que ce qu'il veut voir. Il voit le réel à travers des mythes. Il voit le réel à travers des légendes. Et donc, c'est quelqu'un qui est pétri des récits des héros de l'Ouest. Il veut à tout prix que son désir se réalise, en fait, comme Beauchamp. Ces 2 personnages-là, en fait, voient le monde comme s'ils attendaient à ce que le réel se conforme à leur désir et non pas à ce que le réel soit ce qu'il est. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis, pour terminer sur la séquence au coin du feu aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi finalement William Meunier accepte ce nouveau contrat.
Oui, qu'est-ce qu'il fait changer d'avis?
Voilà. Enfin, parce que si c'est l'argent,
Il
dit que c'est l'argent, mais il aurait pu accepter d'autres propositions pour l'argent. Et par ailleurs, c'est quand même quand le Kid décrit justement les tortures qu'a subi la fille, qu'il change d'avis, où on voit son visage qui se métamorphose. Donc là aussi, hein, c'est un sujet qui n'est pas au clair avec ses propres motivations, contrairement à Little Bill, au shérif, qui lui, au contraire, agit en parlant et théorise beaucoup son action.
On va le retrouver, Little Bill, parce qu'il essaye de faire régner l'ordre dans sa ville, la ville de Big Whiskey, qui répond donc à sa loi, et arrive dans cette ville un personnage complètement atypique que l'on n'attendait pas, un Anglais, mais tout ce qu'il y a de plus anglais par l'accent, par la démarche, qui méprise profondément les Américains parce qu'ils n'ont pas de roi ni de reine. Et il a cette réflexion géniale, hein, il dit mais pourquoi, si vous aviez un roi ou une reine, eh bien personne ne serait pas tué. On ne tue pas un roi alors que c'est facile de tuer un représentant de l'État, qu'il soit président ou autre. Eh bien English Bob, c'est son nom, refuse de déposer ses armes à l'entrée de la ville alors que la loi le demande. Little Bill, pour faire respecter sa loi, est obligé d'intervenir.
I'll have that 32, Bob.
You will leave me at the mercy of my enemies.
Je voudrais ton 32, Bob.
Non, Little Bill. Tu ne veux pas me livrer à la merci de mes ennemis.
Des ennemis, Bob ? Il a fallu qu'il parle encore de la reine. Le jour de l'indépendance.
Oh. Doucement. Doucement.
Tu dois croire que je te fous des coups de pied, Bob. T'es pas tu te trompes? Je suis en train de parler. T'entends? Je parle à tous les mauvais garçons du Kansas. À tous les mauvais garçons du Missouri.
Tu Tu dois croire que je te fous des coups de pied, Bob. Eh bien, tu te trompes. Je suis en train de te parler, à tous les mauvais garçons du Kansas et du Missouri. On est là aussi dans un processus de réécriture. Ce que vous voyez n'est pas ce qui compte, c'est ce que je dis qui compte. Et c'est ça, finalement, peut-être la clé du film, Marcos Mini.
C'est une séquence extraordinaire.
Très violente.
À la fois très violente et dérangeante, parce que c'est une violence qui est maîtrisée. C'est une violence pédagogique.
Ah oui.
En quelque sorte, Little Bill donne un cours d'éducation civique à English Bob en lui expliquant que l'État a le monopole de la violence légitime, que c'est lui le shérif et que les gens ne doivent pas se tirer dessus.
En lui cassant la figure.
En lui cassant la figure. Et là, là aussi, hein, la violence des images, la violence du montage contraste avec un discours, somme toute, assez maîtrisé, et encore une fois, pédagogique de Little Bill. Et je crois qu'on parlait tout à l'heure de malaise du spectateur. Il me semble que si le personnage de Little Bill nous met mal à l'aise, c'est que c'est en fait peut-être le seul dans le film à incarner une certaine forme de rationalité. Alors c'est une rationalité qui peut être discutable, bien évidemment, une rationalité instrumentale, machiavélienne, je dirais. Mais d'une certaine façon, la violence de Little Bill n'est jamais une violence totalement gratuite ou déchaînée. D'ailleurs, c'est plutôt un brave homme. Hein. On le voit construire sa maison. Il incarne, c'est bien la banalité du mal. Hein. C'est pas quelqu'un qui est animé par des pulsions violentes. La violence est pour lui instrumentalisée au service de l'ordre, parce que le désordre créerait encore plus de violence. Finalement, nous sommes dans un contexte de l'Ouest américain, de chasseurs de primes, de bandits, etc. Et pour lui, finalement, la seule manière que les hommes se tiennent tranquilles, alors c'est une anthropologie assez pessimiste, bien sûr. Hein. Là, il y a tout un pan de l'histoire de la philosophie qui traverse le discours de Little Bill. Le discours, c'est pour que les hommes se tiennent tranquilles, il faut qu'ils craignent une autorité. L'autorité doit avoir le monopole de la violence. Et c'est ce qu'il explique à English Bob.
C'est Thomas Hobbes, c'est le Léviathan.
Voilà, tout à fait. Ou c'est Machiavel aussi, hein, le chapitre. Je voudrais juste lire très rapidement, si vous me permettez, le début du chapitre 17 du Prince de Machiavel, qui décrit assez précisément ce que fait là Little Bill, finalement. Hein. Donc, Machiavel écrit : je dis que tout prince doit désirer être regardé comme clément et non pas cruel. Cependant, il doit prendre garde de ne pas mal employer cette clémence. César Borgia était tenu pour cruel. Cependant, c'est cette cruauté qui avait relevé la Romagne, qui l'avait unie et qui avait restauré la paix et la confiance. Si l'on considère bien ce point, on verra que le duc était bien plus clément que le peuple florentin qui, voulant échapper au renom de cruel, laissa détruire Pistoia. Aussi, un prince ne doit pas redouter la mauvaise réputation de la cruauté s'il maintient ses sujets unis et confiants. En effet, en faisant quelques exemples, il sera plus clément que ceux qui, abusant de la clémence, laissent se développer les désordres, d'où naissent les meurtres et les rapines qui, d'ordinaire, nuisent à la communauté tout entière, tandis que ces exécutions imposées par le prince ne nuisent qu'à quelques individus. Je termine rapidement. De plus, parmi tous les princes, le prince nouveau ne peut échapper à la réputation de cruel, puisque les territoires qu'il a acquis regorgent de périls. L'Ouest américain regorge de périls. Et Machiavel dit ici, la violence, il faut la maîtriser. Il faut l'instrumentaliser, il faut la mettre en scène. Et Little Bill est un très grand metteur en scène de sa propre violence. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'encore une fois...
Oui, là, il est au milieu de la rue, tout le monde le regarde.
Exactement. Et c'est à chaque fois qu'il frappe quelqu'un, puisqu'après, il y a William Meunier qui va être roué de coups, et puis plus tard, Ned Logan, qui va être fouetté d'ailleurs, Ned Logan, alors qu'au début, nous voulions peut-être que les cow-boys soient fouettés. Là, on va trouver horrible que Ned soit fouetté. Et à chaque fois qu'il roue de coups quelqu'un, il explique pourquoi. Il dit qu'en fait, voilà, c'est au service d'un projet politique. Alors, je dis pas que je m'associe à ce projet politique. Hein. J'espère que l'ordre social peut être fondé sur autre chose que l'instrumentalisation de la violence. Mais en tout cas, Little Bill est quelqu'un qui arrive à se faire craindre, à se faire respecter, sans se faire haïr parce que justement, il n'abuse pas de sa violence et sa violence n'est jamais gratuite, et qui sait mettre en scène sa violence. On a là la description du prince parfait, selon Machiavel, dans la figure, par exemple, de César Borgia.
Alors qu'il va beaucoup parler du duc, justement, et non pas du prince. Ça veut dire qu'il préfère la violence au désordre?
Ça veut dire qu'il préfère la violence au désordre parce que, selon lui, le désordre causerait encore plus de violence. En fait, c'est ça. C'est pas qu'il préfère vraiment il préfère un ordre injuste que le désordre qui conduirait, en fait, au retour de l'état de nature. Nous sommes dans l'Ouest sauvage. Finalement, ces jeunes femmes, les jeunes prostituées,
oui,
elles appellent des chasseurs de primes. Donc, virtuellement, il va y avoir tout un tas de chasseurs de primes surarmés, sans foi ni loi, pour le coup, qui vont venir pour faire... Et ça, il ne peut pas le tolérer au nom de l'ordre. Alors, c'est une conception de l'ordre, bien sûr, très, très discutable, encore une fois. Mais il y a une forme de rationalité. Et c'est ça qui nous gêne aussi. C'est que, finalement, en tant que westernosophe, si j'ose m'exprimer ainsi, ouais, en tant que philosophe qui regardons des westerns, si nous cherchons à nous identifier à un personnage rationnel, un des rares personnages de ce film qui tienne un discours, qui essaie de rationaliser son action, c'est justement le shérif Little Bill.
Oui, mais la philosophie n'est pas dans toute forme de rationalité. Et certainement pas ici, me semble-t-il, puisque le discours de Bill est de justifier, vous l'avez dit, un ordre injuste. Or, il semble que tout l'enjeu du western soit de savoir comment faire régner la justice. C'est-à-dire qu'ici, Little Bill a choisi son camp, c'est l'ordre contre la justice.
Tout à fait. Mais c'est l'ordre contre la justice, sauf qu'il y a un débat sur ce que serait un ordre juste, si vous voulez. Voilà. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous que la philosophie ne va pas défendre une rationalité purement instrumentale, quoi qu'elle le fait parfois. Certains philosophes l'ont fait, justement. Mais on peut ne pas avoir désiré défendre cette conception purement instrumentale de la rationalité. Toujours est-il que selon lui, il y a quand même une forme de justice. C'est-à-dire, ce qui est juste, c'est ce qui va parvenir finalement à assurer la paix. Et je trouve que là, le western est un genre qui nous parle tout particulièrement sur notre époque. C'est-à-dire, jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer aux droits fondamentaux? Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer aux droits de la personne humaine? Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer à la dignité de certains pour assurer la sécurité collective?
Vous pensez à quoi?
Ben, je pense à toutes les politiques antiterroristes, par exemple, je fais une parenthèse parce que je comptais pas parler de ça forcément, mais faut-il mettre en prison tous les fichiers S de manière préventive pour éviter qu'ils commettent des attentats? Mais finalement, Little Bill dirait bien sûr, puisque la position rationnelle, c'est ça. Oui, mais alors, et les droits de ceux qui vont être emprisonnés, finalement, ad vitam aeternam pour rien. Oui, certes, mais là, on est dans le calcul, hein. C'est ce que dit Machiavel dans l'extrait que j'ai lu. Les violences qui s'exercent de manière rapide et efficace ne nuisent qu'à quelques-uns. Le désordre qu'on laisse installer parfois par excès de clémence, dit Machiavel.
Respect du droit.
Exactement, on pourrait dire par respect
c'est
du droit.
La même chose.
Ce désordre-là peut virtuellement nuire à tout le monde. Vous voyez, il peut dissoudre le lien social. En fait, nous sommes, et Machiavel dit aussi, c'est encore plus vrai pour les princes nouveaux, c'est-à-dire les princes qui s'emparent de régions qui n'ont pas été justement civilisées d'une certaine manière, où il n'y a pas de droit, ce qui est le cas de l'Ouest américain à cette époque. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que je suis d'accord avec ce que fait Little Bill, mais simplement je suis en train de dire que le malaise qui existe chez le spectateur, et c'est là où Clint Eastwood est vraiment habile, le malaise qui existe chez le spectateur est justement lié au fait que nous reconnaissons qu'il y a une logique dans ce que fait Little Bill, même si cette logique arrive à des choses atroces comme rouer un homme de coups à terre comme il le fait.
Et cette logique va être encore plus implacable et effrayante dans la scène qui suit, puisqu'il va mettre English Bob en prison, accompagné de celui qu'il présente comme étant son biographe. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, Marc Rosmini, il s'agit de Beauchamp. Et alors Monsieur Beauchamp, parce qu'il est français, écrit des livres. Et quand la parole va lui être donnée, va nous apparaître de manière très claire qu'en réalité, c'est sans doute ça le sujet du film. C'est comment mettre en récit...
Absolument.
Tout ce que nous sommes en train de raconter à notre manière, que Clint Eastwood, lui, filme et nous montre à l'écran, le rôle de Beauchamp est crucial parce qu'il nous fait réfléchir sur le regard que nous portons sur la réalité et comment les mots et le regard transforment cette réalité. C'est le cas du kid qui est myope, à qui l'on doit raconter ce qui se passe parce qu'il ne le voit pas. Et c'est le cas de Clint Eastwood qui nous raconte quelque chose et qui nous rend tributaire des différents points de vue. Alors écoutez cette scène, ils sont donc dans le bureau du shérif de Little Bill, English Bob est en prison et Beauchamp est juste à côté et Little Bill va l'interroger sur les livres qu'il est en train d'écrire.
Dis donc, c'est pas détendre tous ces personnages, Bob. Tu les as vraiment tués tous les sept ou t'en as juste blessé quelques-uns? Non, c'est toi, là. Immortalisé sur la couverture. Le dog de la mort.
Le duc de la mort.
Le duc, oui. T'as toujours su te débrouiller avec un pistolet, Bob. Mais ce type, bon sang. Et t'as protégé cette femme et tout. Mais comment t'as fait?
Vous voyez, il est généralement considéré comme souhaitable dans le métier de l'édition de prendre une certaine liberté pour illustrer la couverture d'un livre pour de simples raisons commerciales. C'est comme ça.
Eh bien, Monsieur Beauchamp, d'après ce que j'ai lu, la rédaction du livre est de la même veine que la couverture.
Eh bien, je peux vous assurer, Monsieur Daguette, que les événements décrits dans cet ouvrage ont été rapportés par des témoins oculaires.
Témoins oculaires?
Oui, monsieur.
Vous voulez dire le doc lui-même, je suppose?
Le duc.
Moi, je dis doc. Tu as porté atteinte à l'honneur de cette merveilleuse femme, Corcoran. Dis le doc. Tu dois lui faire tes excuses. Mais Corcoran de Flingue ne voulait rien savoir. Dans un juron, il sauta sur ses pistolets et il l'aurait tué à bout portant si le doc n'avait pas été plus rapide. Et des éclairs de feu jaillirent de son formidable six coups.
Je crois que c'est une peinture très exacte de l'événement. Oh, bien sûr, je vous accorde qu'il y a une certaine poésie dans le langage à laquelle je ne peux résister.
Monsieur Beauchamp, j'étais au Saloon Blue Bottle, à Wichita, la nuit où English Bob a tué Corky Corcoran. Je ne vous y ai pas vu. Ni aucune femme, ni aucun tireur à deux flingues. Rien de tout ça.
Vous y étiez ?
Oui, j'y étais.
Alors bien sûr, notons au passage qu'il s'appelle Beauchamp, et quand on note l'importance de l'image et de l'esthétique chez Eastwood pour accéder à la vérité, le nom prend tout son sens. Alors vous avez dit, Marc Rosmini, au début de l'émission, que ce film était intéressant par la réflexion qu'il proposait sur la notion de vérité, sur celle de l'image. Eh bien, c'est tout ce qui se trouve dans l'extrait que l'on vient d'entendre. Hein. Où est la vérité ? Dans la bouche de celui qui raconte, dans l'œil de celui qui a vu, ou dans la main de celui qui a agi ?
Alors c'est un passage absolument formidable aussi. Alors c'est vrai que Beauchamp s'appelle Beauchamp, comme lui, c'est intéressant aussi de souligner qu'il est français, donc il a un regard aussi extérieur, hein, c'est-à-dire que justement lui, pour lui l'Ouest a d'abord été un imaginaire, a d'abord été un mythe, hein, comme Bronco Billy, le personnage qu'interprète Clint Eastwood dans son film éponyme. Justement d'un cow-boy en fait qui n'a connu de l'Ouest que les images qui en ont été fabriquées. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que Eastwood place sa caméra de manière très particulière dans le bureau du shérif, et souvent à travers la scène est filmée à travers la grille de prison,
les barreaux, quoi.
Et c'est important parce qu'il accentue justement sur la relativité des points de vue. En fait, ici, cette séquence, comme tout le film, cette séquence encore plus, nous conduit à faire le deuil de l'idée de vérité et de réalité. Nous n'aurons qu'à faire qu'à des points de vue et nous n'aurons pas affaire au réel. Et il utilise aussi, alors il faut le souligner visuellement, des longues focales, donc des focales où la profondeur de champ est très courte, donc où une zone de l'image est floue. Et notamment d'ailleurs, English Bob, pardon, qui est dans sa cellule, est souvent en fond d'image, et donc il est flou. Et donc là aussi, finalement, la longue focale, c'est une focale dans laquelle, en fait, on ne voit qu'une partie de l'image qui est nette, mais ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière, on ne le voit pas. Voilà. Et là, vraiment, il y a une insistance visuelle sur le fait que nous n'avons que des perspectives, nous n'avons que des points de vue et nous n'avons pas la réalité.
Et c'est aussi une réflexion sur le rôle de l'écriture.
Sur le rôle de l'écriture, absolument. Parce que Beauchamp dit lui-même qu'il transforme un peu la réalité, qui a déjà été transformée, bien évidemment, par English Bob. Rien ne dit non plus, d'ailleurs, que ce que raconte Little Bill est vrai. Hein. C'est là où la séquence est intéressante aussi. Parce qu'en fait, nous pourrions dire que cette séquence est une séquence de démystification. Mais nous n'avons aucun moyen de vérifier, ni Beauchamp ni nous, n'avons vraiment le moyen de vérifier ce qui s'est vraiment passé ce soir-là dans ce saloon. Autrement dit, nous quittons le film plein de doutes et plein d'incertitudes, mais avec aucune idée de ce qui s'est passé. Et ça, ça a des conséquences importantes. Parce que ça a des conséquences esthétiques, d'abord. Puisque le western est un genre qui s'est inventé non pas directement avec l'Ouest, mais avec des images de l'Ouest, avec notamment ces petits romans populaires écrits par des gens comme Beauchamp, avec des tableaux, avec des récits. Et donc, il y a un éloignement de plusieurs degrés de la vérité, en fait. Donc, nous avons un éloignement de plusieurs degrés de la vérité. Et donc, le film est un film dominé par une forme de scepticisme, cette séquence notamment. Voilà, cette idée que la vérité échappe.
Et ou alors qu'elle appartient à chacun de manière différente et que nous ne l'avons pas en commun.
Et que nous ne l'avons pas en commun, et surtout que nous ne l'avons qu'avec ceux qui ont produit l'écrit. Alors ça, c'est un petit point qui peut être intéressant dans l'histoire du western aussi, c'est que les historiens travaillent sur l'Ouest à partir de sources écrites par qui ? Par des Blancs. Et le point de vue des Indiens aussi, qui est presque absent de ce film, on n'a qu'un personnage indien dans ce film, c'est la femme de Ned Logan, qui est un personnage muet, elle ne dit pas le moindre mot. Et justement, les Indiens, c'est aussi ceux à qui on a volé la parole, parce qu'ils n'avaient pas d'écrit, et les historiens, donc il y a vraiment une question aussi d'épistémologie de l'histoire ici, hein, d'historiographie, les historiens travaillent avec des sources qui sont produites non seulement uniquement par des Blancs, et en plus par des gens peu scrupuleux comme Beauchamp, qui croient tout ce qu'on leur dit, parce que Beauchamp incarne une figure finalement de la crédulité. Il croyait ce que lui disait English Bob, puis il va croire ce que lui dit Little Bill, et voilà, il a besoin de croire. C'est un personnage qui a besoin de croire.
Est-ce vraiment un film aussi sceptique qu'il laisse penser ? Est-ce que vraiment la vérité ne nous est pas accessible ? Alors, la vérité avec un grand V, certainement pas. Mais il y a quand même ressort du film autre chose qu'une neutralité. C'est-à-dire que le spectateur sait très bien qui il a envie de défendre, qui il a envie d'attaquer, qui il a envie de voir puni. Et Eastwood n'est pas pervers au point de jouer avec ces attentes-là. Au contraire, il est satisfait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bien et un mal qui sont, comme souvent chez Eastwood, contrairement à ce qu'on dit souvent, même s'il utilise beaucoup de violence, qui sont respectés. C'est que le bien finit quand même par gagner.
Alors, je suis pas sûr qu'on puisse dire que le bien finit par gagner. D'abord, alors, est-ce qu'il y a des personnages auxquels on s'identifie vraiment ? Je crois que les prostituées apparaissent comme de vraies victimes. S'il y a des personnages dans le film qui apparaissent comme des victimes, ce sont globalement les femmes, et en particulier les prostituées. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous pouvons nous identifier à elles, elles sont victimes, mais nous n'allons peut-être pas aussi loin qu'elle dans le désir de punition et de vengeance, puisque au final, nous ne sommes pas sûrs, d'ailleurs comme Ned et William Meunier eux-mêmes et comme le Kid, nous ne sommes pas sûrs finalement d'avoir envie qu'il tue ces cow-boys. Donc, nous ne sommes pas sûrs d'avoir envie du meurtre. Deuxièmement, ce qui fait que le bien et le mal ne sont pas aussi évidents, c'est que William Meunier, à la fin, c'est une pure vengeance finalement. On a tué son ami, on a tué Ned, et donc il se venge. Et en plus, alors ça, comme il nous reste peu de temps, peut-être que c'est l'occasion aussi d'en parler, je sais pas ce que vous en pensez, mais la fin du film, je disais tout à l'heure qu'elle est très improbable.
Oui, mais elle va dans le sens, pour répondre à ma question, vous êtes obligé de l'évoquer, et allons-y, c'est très bien, parce que justement, cette fin du film dont je disais qu'elle était jubilatoire, à mon sens, ne l'est que parce qu'on lui donne raison.
Mais parce qu'on
et
lui donne raison.
Et qu'on tient du côté du vrai, même s'il tue qui? Il tue les ennemis, il tue ceux qui ont tué son ami, donc difficile de lui en
c'est
vouloir.
C'est vrai, mais on lui donne raison aussi parce que nous sommes dans un espace de cinéma.
Oui, bien sûr.
Voilà, il n'est pas certain que dans la vie réelle,
évidemment, je ne me réjouirais pas d'une tuerie si elle se passait à côté de moi. En revanche, dans le cadre d'un écran, au contraire, on est de son côté, forcément.
On est de son côté parce que Little Bill est un personnage particulièrement atroce, que nous ne pouvons pas déplorer qu'il disparaisse. Par contre, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait tout à l'heure, cette séquence est improbable. Logiquement, il aurait dû mourir plein de fois.
Donc, pour aller, parce qu'on a, du coup, si on arrive à la fin, finalement, Clint Eastwood arrive à retrouver toutes les personnes, alors tous ceux qui lui ont nui pendant le film, qui sont regroupés dans une seule et même pièce, et par un miracle improbable, c'est votre terme, il réussit à les tuer tous.
Voilà, alors que jusque-là, les personnages qui avaient été tués, les deux cow-boys, ont été tués dans des circonstances particulièrement éloignées des codes du western. Le premier, en fait, meurt très lentement. Alors ça, c'est une séquence assez intéressante, on aurait pu en parler.
L'agonie de ce cow-boy, ouais.
Nous manquerons de temps, mais c'est pas grave. Il suffit de voir le film. Mais c'est vrai que, habituellement, dans les westerns classiques, notamment dans les westerns italiens, par exemple, quand on tire sur un méchant, il meurt tout de suite. Et d'une certaine manière, l'immédiateté de sa mort donne comme une légitimité au fait qu'on l'ait tué. Ici, le cow-boy, d'abord, c'est le premier cow-boy qui est tué, c'est pas celui qui avait balafré la fille, mais c'est son acolyte. Mmh. Et surtout, il meurt très lentement. Il y a son cheval qui lui tombe dessus, il perd son sang. Et en fait, ceux qui lui ont tiré dessus, c'est-à-dire William Meunier et Ned Logan, le prennent en pitié, acceptent qu'on lui donne de l'eau, et finalement eux-mêmes se demandent s'ils ont envie qu'il meure alors qu'ils viennent de le tuer. Et là aussi, on est en pleine ambiguïté morale. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la distinction du bien et du mal ici, est-ce qu'on se réjouit que ce personnage meure? Je ne sais pas comment on peut répondre à cette question-là. Ouais. D'une certaine manière, c'est un méchant. Dans les westerns, il faut que les méchants meurent pour que les gentils gagnent. Mais d'une certaine manière, c'est un méchant qui n'a participé qu'indirectement à l'acte et qui surtout, la lenteur de son agonie, et là on peut penser à des films intéressants sur la peine de mort aussi, qui montrent que là, la pratique de la mise à mort est tout aussi atroce que le meurtre qui a été commis. Et donc à la fin, effectivement, là on revient dans les codes du western, on est dans le saloon, et puis le héros, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, le héros donc tue 5 personnes d'un coup. Alors on peut se demander, enfin moi je me suis toujours demandé, j'ai vu ce film de nombreuses fois, si cette séquence est une séquence diégétique, si elle a vraiment lieu, ou bien si elle n'a pas lieu dans le regard de Beauchamp. Parce que Beauchamp, depuis le début du film, on lui a raconté des séquences incroyables où dans un bar, un pistolero avait tué plusieurs personnes d'un coup. Et lui, il a envie de voir ça, il a envie que ce soit vrai en fait. Hein, on peut penser ici au Gai Savoir de Nietzsche, à l'aphorisme par exemple 347 pour être précis, où Nietzsche dit en fait la force d'une croyance, c'est le désir de croire, c'est le désir qu'elle satisfait. Or Beauchamp a envie qu'il y ait des héros qui soient capables de tuer 5 personnes d'un coup. Et encore une fois, peut-être qu'il s'agit d'une image mentale. Peut-être qu'en fait cette fin n'a pas lieu. Alors, ce qui pourrait nous laisser penser ça, d'abord, c'est que la séquence est très, très gothique, très étrange. Il y a une musique qui rappelle le cinéma fantastique, on est en pleine nuit. Quand William Meunier rentre dans le bar, il y a comme par hasard un coup de tonnerre comme ça quand il rentre. Donc on a des effets cinématographiques extrêmement appuyés qui nous font sortir du réalisme qui avait été celui du film à beaucoup d'égards jusque-là. Et donc, effectivement, on peut se demander, est-ce que cette séquence a vraiment lieu ou est-ce qu'elle a lieu dans le regard de Beauchamp qui a tellement envie que ça se produise, que ça se produit pour lui? Est-ce que c'est une image mentale? Quoi, je sais pas.
Et est-ce que ça change le film de savoir si elle a lieu ou pas?
Alors oui, ça change le film quand même, parce que si
ça n'a pas eu lieu, alors on ne peut pas se réjouir que le personnage de Clint Eastwood ait pu accomplir l'acte qu'il voulait accomplir sans redevenir méchant. Parce
Exactement.
Que c'est quand même ça qui se passe.
Exactement.
La vraie raison de se réjouir, c'est pas qu'il ait tué des personnes, c'est qu'il ait réussi à ne pas rebasculer du mauvais côté.
Tout à fait, tout à fait.
C'est en ça que ça reste moral quand même.
Oui, c'est en ça que ça reste moral, mais alors si ça a lieu, alors par contre si dans l'autre hypothèse, dans l'hypothèse où ça a vraiment lieu, alors Beauchamp, il vient lui parler à la fin, il est admiratif, il ressort les théories d'ailleurs de Little Bill, il dit mais alors est-ce que vous avez tué le premier, etc. Et Beauchamp, bien sûr, il le voit partir. Beauchamp remet ses lunettes, ça c'est important. Il remet ses lunettes pour bien le voir partir et Beauchamp, il va écrire. écrire maintenant. Il va écrire et il va reforger un mythe. Et comme Beauchamp est un personnage peu scrupuleux intellectuellement, comme on l'a vu tout le long du film, derrière ce qui s'est vraiment passé, il va broder des choses qui vont être à nouveau incertaines et sur lesquelles les historiens travailleront plus tard. Donc en fait, on peut pas dire que la fin soit heureuse dans aucun des deux cas finalement. Il y a pas vraiment. Puis surtout, alors je crois que la fin est pas heureuse aussi parce que le problème politique du film au départ n'est pas résolu. Le problème politique, c'était comment faire société. Et au final, on se retrouve avec des cadavres, on se retrouve avec un individu qui repart dans sa solitude. Il n'y a pas de société. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais la fin est heureuse en ceci que il reste en vie. Il n'a pas basculé alors qu'il se remit à boire et qu'il a tué 6 personnes. Il n'a pas rebasculé dans son statut de hors-la-loi qui tue tout le monde. Il retrouve ses enfants, il déménage. On se réjouit quand même de ça. La tension était présente depuis le début du film. Oui. D'un point de vue non moral, amoral, hein, non pas immoral, il y a de quoi se réjouir
pour
lui.
Oui, tout à fait. Au moins pour les enfants.
Père de famille.
Au moins pour les enfants qu'il va retrouver.
C'est peut-être une petite consolation.
Oui, tout à fait. Et puis, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est vraiment toutes ces questions aussi qui laissent ouvertes, en fait. Hein, et cette question, notamment, politique, qui traverse d'ailleurs beaucoup de films de Clint Eastwood, qui est finalement, est-ce qu'on peut échapper à la violence? Est-ce que les rapports humains peuvent échapper à la violence? Ou est-ce qu'il y a une malédiction de la violence? Et alors qu'il y a beaucoup de westerns quand même, où il y a la question de l'éducation, il y a la question de la civilisation. En fait, voilà, dans ce film-là, on ne sait pas qui est vraiment au service de la civilisation.
Non,
voilà.
Mais on sait qu'on n'échappe pas à la violence.
On sait qu'on n'échappe pas à la
chez
violence.
Chez Eastwood, jamais.
Voilà, ça c'est sûr. Il y a une sorte de malédiction comme ça, et qui fait qu'à la fin, il n'y a pas plus de société qu'au début.
Merci beaucoup Marc Rosmini d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je renvoie les éditeurs à votre livre Méditation westernosophique, où on trouve des méditations sur d'autres westerns également. C'est aux éditions Mediapop. On se quitte avec le cow-boy qui reprend la route tout seul, celui qui chevauche sous l'orage. Riders on the Storm, c'est The Doors.
Riders on the Storm. Riders on the Storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long
écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mesnin-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous allez souhaiter l'anniversaire à une grande romancière.
Alors ce sera le 30 juillet, mais déjà nous pouvons nous préparer à ce grand événement, le bicentenaire de la naissance d'Émilie Brontë. Émilie Brontë, née en 1818, morte seulement 30 ans plus tard en 1848 d'une tuberculose qu'elle avait refusé de soigner, sœur de Charlotte et Anne, une sororité dont on a tout imaginé, l'enfance, les jeux, les rêves, on doit à Émilie Brontë un seul roman, mais quel roman ?
Heathcliff leva les yeux et parla. Elle est morte, dit-il. Je ne vous ai pas attendu pour le savoir. Laissez votre mouchoir, ne pleurnichez pas devant moi. Maudits soyez-vous tous. Elle n'a que faire de vos larmes. Je pleurais sur lui autant que sur elle. Les êtres incapables de pitié pour eux-mêmes ou pour les autres inspirent parfois la compassion. Au premier regard que je lui avais jeté de loin, j'avais compris qu'il était au courant de la catastrophe. Et la sotte pensée me traversa l'esprit que son cœur s'était apaisé et qu'il priait car ses lèvres remuaient et ses paupières s'étaient baissées.
Publié en 1847, la même année que le roman de sa sœur, Jeanne Eyre, le roman d'Émilie, Les Hauts de Hurlevent, est l'un des plus connus de la littérature anglo-saxonne. Quelque peu éclipsé par celui de sa sœur Charlotte lors de sa publication, il est devenu par la suite un classique. L'écrivain William Somerset Maugham, dans son essai « 10 romans et leur auteur », le classe ainsi parmi les plus grands textes au monde, selon lui. Après Madame Bovary, mais avant Guerre et Paix. Sioran, lui, est bouleversé à sa lecture et Lydie Salvert, écrivaine lauréate du prix Goncourt en 2014, signe la préface de sa toute nouvelle réédition aux éditions Robert Laffont. Et puis, il faut le dire, les Hauts de Hurlevent a inspiré les plus grands au cinéma, à la télé et en musique. Bernard Herrmann, le grand compositeur d'Alfred Hitchcock, en a fait un opéra. Alors je ne saurais dire si c'est son meilleur, mais on peut aussi penser à ce tube inoubliable de Kate Bush. Mais entre reconnaissance et reprise multiple de ce roman tragique, entre amour passionné et vengeance dévastatrice, qui pourrait dire qui est Emily Brontë ? C'est la grande question, la grande énigme, le grand mystère qui perdure 200 ans après. On peut bien donner ses dates de naissance et de mort, dire et rappeler l'empreinte du roman gothique sur ses hauts de Hurlevent, tenter de saisir la mythologie qui l'unit à ses deux sœurs et à son seul frère. Il faut rappeler qu'on leur doit par exemple tout un ensemble de textes, cartes, schémas, des petits livres raccrochés par des bouts de ficelle et écrits à plusieurs, fruits de leur administration imaginaire de mondes et royaumes qu'ils avaient donc eux-mêmes imaginés, du nom de Glastonne, Gondal ou Angria. Et puis on peut aussi esquisser son caractère, ou ce qui a pu en être dit, sauvage, solitaire, attaché à la lande du Yorkshire, mais aura-t-on tout dit d'elle ? Car Emily Brontë incarne à elle seule le mystère philosophique de l'auteur, elle en est le paradoxe. D'elle, on connaît assez de choses pour l'identifier, mais trop peu pour signer définitivement son portrait. Et à l'inverse des œuvres qu'on explique par la vie de leur auteur, on tente souvent de la saisir elle, mais en passant au contraire par son œuvre.
Lorsque lassée du long souci du jour et ballottée de peine en peine, je suis perdue, prête à désespérer. Ta bonne voix de nouveau me rappelle. Ô ma fidèle amie, comment serais-je seule tant que tu peux parler sur pareil ton ? Le monde du dehors est si vide d'espoir que m'est deux fois précieux le monde du dedans. Se tient monde où jamais ne règne ruse et haine, non plus que doute et froid soupçon. Où toi et moi, d'accord avec la liberté, exerçons souveraineté indiscutée.
D'Emily Brontë, il nous reste des poèmes publiés un an avant sa mort et parce que sa sœur l'avait voulu. Il nous reste donc des traces de ce qu'elle a écrit, mais pas d'elle comme auteur, de ses processus, de ses mobiles, de ses affects qui l'animaient. De la même manière que ses personnages ont pour ressort le mystère, il en est de même pour son geste d'auteur. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue auteur ? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est autorisée à l'être ? Et qu'est-ce qui pourrait nous l'expliquer dans ce qu'elle a signé comme auteur ? Dans ce poème qu'on vient d'entendre, qui s'appelle « À l'imagination », elle s'élève cette folle du logis, cette faculté puissante mais dont la logique échappe, et avec Emily Brontë apparaît aussi la possibilité puissante, folle et illogique d'une autorisation prise sans la demander, d'une autorisation d'écrire et de signer de sa plume et de son nom, sans choisir pourtant d'être lue elle, visible, explicable, grâce à son œuvre, telle n'importe quel auteur.
Vous aimez Emily Brontë, Géraldine Tassantan ?
J'aime beaucoup Emily Brontë, j'aime beaucoup Kate Bush aussi, comme vous, je crois.
Oui, ça donne envie de chanter. Alors, vous nous conseillez de lire le roman, j'imagine.
Les Hauts de Hurlevent, qui paraît à nouveau chez Robert Laffont, avec une préface de Lydie Salvert.
C'est noté, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, David Pargamin, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Hellig et Olivier Bétard qui ont réalisé cette semaine, Olivier Dupré et Jean-Frédéric à la prise de son. Demain, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie au micro des chemins, chère Géraldine.
Oui, je suis ravie pour un vendredi spécial sport à l'occasion du début de la Coupe du Monde de football. Mais demain, moi, je parlerai de sport de combat avec la philosophe Elsa Dorlin.
Eh bien, on a hâte. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette série d'émissions sur le western, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne ou bien les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc, avec Géraldine Mosna-Savoie et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.